RFI vous présente Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Pierre Benoît pour TV5 Monde, Marie-Roger Biloa, Africa International, et puis Pascal Hérault, L'Opinion. Et c'est autour de trois sujets cette semaine en France. François Hollande ne sera pas candidat à un second mandat. Beaucoup de dirigeants africains perdent là un allié et sans doute un ami. À droite, François Fillon, qui sera lui le candidat à la présidentielle de 2017 pour la droite et pour le moment muet sur l'Afrique. Il y a aussi la mort de Fidel Castro, un révolutionnaire cubain certes, mais aussi un héros africain. Et puis enfin, le Cameroun où la question anglophone refait surface. D'abord, François Hollande qui a donc décidé de jeter l'éponge au terme d'un seul et unique mandat à la tête de la France. Annonce faite jeudi soir par le chef de l'État français. On l'écoute.
Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
Voilà, François Hollande, très bref, hein, une décision sans précédent, Pierre Benoît, sous la Ve République. L'Afrique tiendra, on le sait, véritablement une place importante à l'heure du bilan de son quinquennat.
Absolument, parce qu'il y a eu le premier épisode sur le Mali, avec l'intervention militaire extrêmement rapide lorsque les djihadistes du Nord voulaient fondre sur Bamako. Ensuite, l'intervention humanitaire, en tout cas décidée également dans l'urgence sur Bangui, puisque la tension était très vive et il y avait un début de massacre annoncé. On a même parlé de génocide, de situation pré-génocidaire. Et dans l'ensemble, une politique africaine très active, mais aussi extraordinairement concentrée sur dimension politico-militaire, avec un ministère de la Défense qui a finalement fonctionné comme un appendice de la diplomatie française sur le continent.
Pascal Hérault, d'ailleurs, d'où cette espèce de méfiance, en tout cas de position de retrait de François Hollande vis-à-vis de certains dirigeants d'Afrique centrale qui, évidemment, eux, ne pense qu'à perdurer au pouvoir. Enfin, on peut citer M. Kabila, on peut citer M. Nkurunziza et bien d'autres.
Oui, il a été beaucoup plus proche pendant son mandat des dirigeants d'Afrique de l'Ouest, notamment d'Alassane Ouattara ou des dirigeants de l'international socialiste. Je pense à Alpha Condé, je pense aussi à Ibrahim Boubacar Keïta ou à Mahamadou Issoufou. Avec l'Afrique centrale, ça a été plus compliqué parce qu'il avait dit qu'il romprait avec la France-Afrique. Il avait dit aussi pendant la campagne que les valeurs démocratique prévalerait. Donc il a un peu délégué à l'Afrique centrale à son ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui lui a fait le boulot avec ces dirigeants-là et donc on a privilégié le pragmatisme.
Voilà, on aura l'occasion évidemment de reparler de François Hollande et de ses relations avec l'Afrique à l'heure du bilan du quinquennat, c'est-à-dire en mai prochain. Alors justement, à droite, Marie-Roger, on a déjà le nom du candidat, en tout cas la droite républicaine, c'est François Fillon. Pendant tous les débats lors de cette primaire qui associait notamment l'ex-président Sarkozy ou l'ancien Premier ministre François Juppé, les questions africaines ont été complètement occultées.
Oui, je dirais que c'est un peu pareil avec Hollande. Lorsque Hollande a été élu, bon, ses liens avec l'Afrique étaient nus. Bon, il connaissait peut-être Ibeka parce qu'ils étaient dans l'international socialiste, mais on ne peut pas dire. Voilà, on se disait qu'est-ce que ça va devenir après Sarkozy qui avait été très interventionniste et Chirac qui était l'ami de l'Afrique. Il a un bilan très très fort, Hollande, sur l'Afrique par rapport à d'autres. Fillon, peut-être aussi, qui va développer une nouvelle relation.
Alors, l'hypothèse d'un François Fillon élu, l'hypothèse d'un François Fillon élu au mois de mai, est-ce qu'il va s'adapter, lui aussi, va finalement s'adapter comme les autres ?
Sans doute, parce que ces personnalités ne travaillent pas seules. Il y a déjà un entourage autour de François Fillon assez important.
Il y a les militaires aussi.
Qui s'est exprimé, d'ailleurs, à quelques occasions sur ses idées en termes d'économie et de continent africain. François Fillon, le pragmatique, il sait très bien que la France est un peu en perte de vitesse sur le continent, que donc il va falloir réinverser la tendance, notamment remettre les entreprises françaises au niveau où elles étaient Hollande l'avait fait il y a encore une dizaine d'années. Et puis François Fillon aussi, il a une vision conservatrice. On l'a bien vu dans les débats, etc. Et il a eu cette sortie le 31 août 2016 dans la Sarthe, qui est son fief. Non, la France n'est pas coupable d'avoir fait partager sa culture au peuple d'Afrique. Donc c'est une révision, une vision, disons, plutôt unilatérale de la colonisation. On se demande comment on peut sortir de phrases comme ça en 2016.
Voilà. Alors François Fillon qui dit aussi que l'aide à la coopération, l'aide au développement sera conditionnée à l'acceptation des pays de leurs clandestins qui vivent en France. Je pense au Mali, je pense à bien d'autres pays. Pour autant, est-ce que finalement il va amener à faire preuve de réalisme comme ses prédécesseurs, Pascal ?
Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que tous les présidents de la Ve République, leur légitimité internationale, elle passe par l'Afrique. C'est voilà. Le soutien aussi des Africains qui fait qu'on a une voix qui porte dans le monde. Donc François Fillon devra en tenir compte. Oui. Sur sa ligne, je pense qu'il sera dans une ligne comme Sarkozy ou comme Hollande. Au début, il va annoncer la fin de la France-Afrique. Il sera assez dur sur les questions d'immigration, mais on l'est déjà. Quand on voit le dernier sommet de Malte, François Hollande, Angela Merkel sont allés négocier de l'aide contre un contrôle des migrants. Donc ça, rien ne changera. Après, sur les questions mémorielles, il ne sera pas dans la repentance. Il l'a dit plusieurs fois. Oui. Ce sera un président classique qui aura besoin de l'Afrique aussi pour se légitimer.
Président classique, s'il est élu. N'allons pas plus vite que la musique. Voilà. RFI TV 5 Monde. On en vient à notre deuxième sujet. C'est la mort du dirigeant historique cubain Fidel Castro à l'âge de 90 ans. Fidel Castro, chef révolutionnaire, bien sûr, mais aussi un héros africain. Le sujet est résumé par Nicolas Dudouet de TV 5 Monde.
La libertad, la liberté, le sel d'une vie. Le socle d'une amitié indéfectible entre Fidel Castro et Nelson Mandela. Il n'est pas de hasard si tout fraîchement libéré des geôles de la prison de Victor Wechter en 1990, Nelson Mandela réserve sa première visite à l'étranger au président Maximo.
You must tell me when you are coming to
South. Castro, l'ami africain, soutien indéfectible de l'ANC, le Congrès national africain, le parti de Mandela, dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et négociateur de l'ombre pour la libération de Nelson Mandela. Cuba et l'Afrique, le fruit d'une longue histoire, le trait d'union de la lutte contre le colonialisme. Fidel Castro ne s'arrête pas là. Il apporte son aide technique à la Guinée, qui conquiert son indépendance en 1975. La révolution du continent africain est en marche. La guerre froide entre l'URSS et les États-Unis est sourde et sournoise en Afrique. Cuba pousse ses pions jusqu'en Angola. 35 000 hommes sont dépêchés pour aider le grand frère soviétique à porter au pouvoir le mouvement de libération populaire de l'Angola. La victoire est double pour Castro. L'indépendance est proclamée. Sa victoire se fait aux dépens de deux autres rébellions soutenues par les États-Unis et l'Afrique du Sud, les ennemis jurés. Castro est triomphant, mais la guerre va se poursuivre 15 ans en Angola. Un demi-million de Cubains seront envoyés là-bas. En 1988, un accord est signé entre l'Afrique du Sud, l'Angola et Cuba pour mettre fin aux hostilités. En échange, l'Afrique du Sud renonce notamment à la Namibie qu'elle occupait. Fidel Castro reste aujourd'hui encore en Afrique l'homme de la révolution, l'homme providentiel de la lutte des peuples contre l'oppression, l'homme de la libertad.
Voilà, Fidel Castro, l'Afrique, surtout l'Angola, a été, Pierre Benoît, l'un des terrains de jeu de l'internationale révolutionnaire cubaine. La Havane est entrée dans la mêlée de cette guerre civile, comme on le précise dans le sujet, aux côtés donc du MPLA, parti marxiste à l'époque, en déployant jusqu'à 50 000 soldats entre 1975 et 2002. Mais en tout, il y aura eu un demi-million de soldats, de rotation. Alors, tout ça a pesé effectivement sur les bouleversements qu'allait connaître l'Afrique australe plus tard. La chute de l'apartheid, le démantèlement de l'apartheid, l'accession à l'indépendance de la Namibie à l'issue des fameuses négociations de Londres de 1988 sous la houlette du diplomate américain Chester Crocker, mandaté par Ronald Reagan.
La vérité, Hassan, c'est que Castro est devenu un mythe planétaire justement par son engagement et son identification complète comme défenseur absolu du tiers-monde et des luttes contre le colonialisme ou contre l'apartheid. Donc il y a eu tous les épisodes qu'on a vus résumés dans le reportage de Nicolas Dudouet et on a oublié de parler du premier aussi de ses engagements, c'était l'Algérie, puisqu'il y a eu un coup de foudre extraordinaire entre les révolutionnaires cubains et le FNL algérien, avec une visite de Castro à Alger. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une coopération militaire entre l'Angola et Cuba. Il y a eu des Cubains qui sont formés et qui ont... Bon, il y a eu les médecins, il y a eu les conseillers militaires. Ce rôle finalement historique qui a été donné dans la dernière partie de la guerre froide, avant la chute de l'Union soviétique en tant que régime marxiste, eh bien, ça a permis à Cuba de se forger cette légende autour de cet engagement à la fois politique et militaire.
Et une dimension planétaire, Cuba, à travers l'Afrique, puisque, encore une fois, Cuba était représenté face au grand Satan américain, entre guillemets. Auquel il a résisté pendant des décennies. Depuis les années 60, pour négocier effectivement l'avenir de l'Afrique australe. C'était quand même fantastique, ce qui est confirmé par cette visite hautement symbolique de Nelson Mandela à sa libération, donc à la Havane.
Tout à fait. Et voyez-vous, ce qui m'a beaucoup frappé là, à la mort de Castro, c'est que les médias occidentaux ont baissé un petit peu le niveau de leur sarcasme, parce que d'habitude, lorsqu'un révolutionnaire, entre guillemets, meurt, on est assez goguenard, assez ironique, la caricature. On voit que, à la fois, le peuple cubain, les Africains, reprennent en main cette histoire et la portent, j'allais dire, très très haut, et savent ce qu'ils doivent à Castro, bon, la guerre froide, etc., mais c'est des faits solides, je veux dire. Cuba a changé le cours de l'histoire en Afrique. Et ça, c'est des choses en Afrique, mais non, mais en Afrique de manière générale. Je pense à l'Algérie, l'Angola, mais évidemment l'Afrique australe et même d'autres petits pays. Il était en Guinée. Bon. Et ça, c'est des choses qui sont très solides. Ouais. Et moi, c'est cet aspect-là qui m'intéresse, c'est-à-dire les mythes africains qu'on a tendance à ridiculiser, ils sont repris. Là, par exemple, comme Sankara, très fortement par la jeunesse, Sankara est maintenant une figure incontournable dans le narratif, la narration de l'histoire, le roman national, le roman africain. C'est très important. Là, je crois que beaucoup de choses ont été dites, même le joli petit reportage qui était factuel sur Cuba, Fidel Castro et l'Afrique.
C'est un superbe reportage. Je ne suis pas tout à fait d'accord, Pascal, avec Marie-Roger Biloa sur le bilan de Fidel Castro. À mon avis, c'est un paradoxe. Il est beaucoup plus populaire en Afrique qu'il l'est à Cuba. Dans le reportage, ce qui est intéressant, c'est la visite de Mandela. Mmh. Mandela avait dit à l'époque, et ça résume très bien la situation, Cuba a vaincu l'oppresseur blanc en Afrique. Ça, c'était les années 60. Il y a eu l'Algérie.
Il y a eu
l'Algérie.
Pour dire
l'importance de Castro, l'Algérie a décrété une semaine de deuil national, autant que pour aussi Naït Ahmed, qui est l'un des 9 fondateurs quand même
du FLN.
Absolument.
C'est l'importance. Il est intervenu en Éthiopie, il est intervenu en Algérie, vous l'avez dit. Par contre, à Cuba, moi j'y étais il y a 2 ans, quand vous parlez avec la population, avec les jeunes, Castro, c'est aussi un disque rayé.
Pardon. Pierre Benoît, un mot, il a quand même fait aussi exécuter Fidel Castro Ochoa, qui était l'un des héros de la guerre d'Angola.
Le général Ochoa, qui a été un des commandants en chef des forces cubaines en Angola. Moi, ce que je voudrais dire, c'est quand même, il faut reprendre cette idée de Marie-Roger. Je pense que c'est très important dans cette phase de 50 ans après les indépendances, 55 ans après les indépendances, de voir comment l'inconscient collectif sur le continent africain continue d'être travaillé par ces figures et par cette mythologie de la lutte pour la libération nationale, etc., etc. Parce que, justement, il y a plein de régimes qui sont bloqués en Afrique, et cette jeunesse, elle cherche à s'identifier dans une narration auquel elle adhère. Je pense que c'est très important.
Marie-Roger, 30 secondes.
Je voulais dire, évidemment, Fidel Castro, long règne, a aussi ses zones d'ombre, on peut en parler, mais une chose aussi que moi, qu'il faut relever, rapidement, c'est qu'un peu de racisme, je veux dire, il y a vis-à-vis des Noirs. Quand on regarde la population cubaine, on se rend compte à quel point elle est sombre, elle est le directoire
du pouvoir,
enfin oui, autour
et majoritairement blanche.
Majoritairement, et il y a eu des problèmes, on a connu Carlos Mort, des gens qui sont rebellés, et ça c'est là aussi une des zones d'ombre qu'il faut signaler.
De ce pouvoir cubain.
Je voudrais juste ajouter une chose, il y a des centaines de milliers d'étudiants africains qui sont passés par Cuba aussi, qui ont formé des ingénieurs agronomes, des médecins.
Absolument. C'est un bilan solide.
Garde une image de Cuba assez extraordinaire, notamment dans les années 80 où il y avait de quoi vivre, la gratuité des sports, la gratuité du système de santé, une économie.
Mais c'est énorme tout ce qu'on dit.
Garde ce souvenir-là avec beaucoup de nostalgie.
C'est un bilan énorme. Parfait. Tout le monde peut pas en dire autant.
Voilà. Et l'on passe justement Marie-Roger Biloa à votre pays, au Cameroun, hein, sans malheureusement le temps d'avoir l'illustration, au Cameroun où les zones anglophones du pays sont en proie à des tensions. Ce n'est pas nouveau, mais ça se manifeste cette fois de manière très aiguë. Et la tension reste vive hein, dans les villes de Bamenda et de Buea, les capitales respectives des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Alors tout est parti d'une contestation contre ce diktat du français imposé aussi bien aux barreaux, donc les avocats étaient en colère, que dans l'enseignement.
Oui, il y a eu un manque de lisibilité sur ce que veut faire le pouvoir par rapport à cette zone. Est-ce que on veut effacer toute trace d'anglais et faire unité linguistique forcée? Enfin, sinon on comprend pas. On a été progressivement d'un régime où il y avait deux langues bien distincte. Et je sais, quand on était à l'école, tout était bilingue, on insistait. Mmh. Les formulaires administratifs, la télévision, le journal étaient... On avait deux personnes, une personne qui parlait anglais.
Alors, qu'est-ce qui explique ce recul?
Ce qui explique, déjà, Ahidjo a fait l'unification, déjà parce qu'il trouvait, il y avait deux États fédéraux. Ensuite, il a fait l'unification parce qu'il trouvait que c'est trop cher d'entretenir deux régimes, etc. Mais il a oublié une chose. C'est pas seulement des choses sur le papier, mais des gens qui ont grandi avec une culture, une tradition anglo-saxonne.
Et ils en ont marre de l'hégémonie française.
Et que
langue française.
Et qu'il faut en tenir compte. C'est des choses qui existent. On va pas se battre pour l'anglais ou pour les français, qui sont des langues coloniales, mais sont maintenant des langues africaines.
Absolument.
Et je pense que Marie-Roger a raison,
des manifestations d'identité, Pierre-Benoît.
C'est plus que ça met en cause l'évolution actuelle du Cameroun dans son ensemble. Pourquoi? Parce qu'en 72, Marie-Roger le souligne, Ahidjo a fait un coup d'État. Il a biffé d'un trait de plume le fédéralisme. C'est-à-dire que au moment de l'indépendance du Cameroun, le pays s'est vu adjoint deux provinces anglophones qui se sont détachées du Nigeria. On a formé la Fédération du Cameroun en 61. Très bien. En 72, Ahidjo, le dictateur, donne...
Le premier président, Ahidjo, il
biffe ça d'un trait de plume. Et qu'est-ce qui se passe depuis lors? Eh bien, on est dans une logique de développement francophone à marche forcée. Et ça a pété dans l'université de Bamenda, parce que l'université de Bamenda, elle tourne beaucoup mieux que celle de Yaoundé. C'est la réalité. Tous les experts le disent. Moi, j'ai lu ça à peu près sur plusieurs sites. Et d'autre part, les professeurs francophones de l'université Yaoundé sont commencés à débouler pour enseigner à Bamenda. C'est ça qui a mis le feu aux poudres. Et les provinces anglophones réclament le retour au fédéralisme.
Absolument. Voilà. Alors, en plus, ce qui est paradoxal, Pascal, c'est que cette région... Cette zone anglophone est vraiment sous-développée, laissée pour compte par le pouvoir central, tout comme d'ailleurs l'extrême nord du Cameroun. Or, il se trouve que c'est dans cette zone anglophone que le pétrole camerounais a été découvert. C'est aussi une zone très très riche, mais qui est complètement sous-développée. Un ami me disait que pour faire 30 kilomètres, il faut 3 heures, 30 kilomètres de route, parce que c'est sous-développé.
C'est le pétrole, mais c'est pas que le pétrole. C'est les plantations de thé, c'est les VA, il y a du cacao, il y a du café, il y a de l'huile de palme. Historiquement, c'est une région très très riche. Les infrastructures routières n'ont pas été développées.
C'est peut-être un peu le résultat aussi de l'immobilisme de ce pouvoir de Paul Biya. À 37 ans de pouvoir, les choses sont restées quasiment figées, Marie-Roger.
Il y a un immobilisme. Deux secondes. Il y a un immobilisme, surtout, il y a un premier ministre anglophone qui fait partie du deal, mais qui ne fait rien. Il ne sert strictement à rien. Voilà. Et je crois que ça, c'est un des problèmes, parce que, évidemment, on peut toujours déléguer ce qu'on veut, mais c'est vrai, j'ai dit le sentiment d'injustice. C'est-à-dire, on a une très bonne université là-bas, et tu es formé en anglais, tu as les diplômes, etc., tu n'as pas de boulot. Encore moins que ceux qui ont été formés dans la partie...
Sans parler du combat contre Boko Haram dans le Nord, qui est aussi une zone abandonnée.
Mais
donc le Cameroun est une pétaudière aujourd'hui.
Mais on ne peut pas parler de développement inégal, parce que là, je vais vous dire l'Est, le Nord...
Il y a beaucoup de zones
déshéritées.
C'est
pas ça.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Et avant de nous quitter, une pensée pour le sculpteur sénégalais Ousmane Sow, qui s'est éteint à l'âge de 81 ans. Il s'est fait connaître par ses sculptures géantes de guerriers Nouba, mais aussi de grandes figures historiques comme Victor Hugo, évidemment, le grand écrivain français, Nelson Mandela, qu'on ne présente plus, et tant d'autres. Alors, il avait été admis à l'Académie des Beaux-Arts, ici en France, avec le parrainage d'un de ses fidèles admirateurs et amis, qui n'est autre que l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Voilà, c'est la fin d'Afrique Presse. Merci Pierre Benoît, Marie-Roger Biloa et Pascal Hérault, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez bien sûr retrouver cette édition sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse. En sol majeur.